Vous écoutez France Culture.
Bonjour, c'est le moment des mercredis du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour une plongée dans l'œuvre et la vie d'un auteur romantique et hors norme dont sera célébré en décembre 2010 le 200e anniversaire de la naissance. On prend donc un peu d'avance puisque c'est aujourd'hui que nous évoquons ici le génie créatif, les affres sentimentales et les errements psychopathologiques d'Alfred de Musset, né le 11 décembre 1810 et mort à Paris le 2 mai 1857. De toutes les grandes figures du 19e siècle, Musset n'était pas la plus sage. Mort jeune, à 47 ans, il a brûlé la vie par les deux bouts. Étudiant brillant, poète précoce, dandy et alcoolique, l'amant de George Sand et l'auteur, on ne l'oublie pas, de quelques pièces majeures, Les Caprices de Marianne, Fantasio, Lorenzaccio, On ne badine pas avec l'amour, entre autres. Pourtant, Musset, qui s'essaye très vite au théâtre et y connaît d'emblée un échec traumatisant, va pendant 17 ans écrire ses pièces loin du plateau, pour des lecteurs, c'est-à-dire là où le souci de la scène n'est pas une préoccupation. Et cela donne des œuvres dont la structure défie parfois les contraintes logiques de la représentation de l'époque. 5 actes, 36 scènes, près d'une centaine de personnages, 6 à 7 heures de représentation, Lorenzaccio est emblématique de ces textes, injouables à moins d'adaptation. Ces pièces brillantes, virtuoses, sont travaillées, on le verra, tout autant par l'idée du plaisir et du désir que par celle de la débauche, du lâcher-prise ou du ratage. Et si Musset est moderne, c'est sans doute d'avoir su si bien mélanger dans ses œuvres le pur et l'impur, pour reprendre le titre de Colette, donnant ainsi à voir de l'homme l'endroit tout autant que l'envers. Les mercredis du théâtre accueillent aujourd'hui quelques paroles croisées autour d'Alfred de Musset, paroles autorisées de ceux qui pratiquent l'auteur de l'intérieur, les acteurs, avec Cécile Brune, interprète androgyne de Fantasio à la Comédie Française sous la direction de Denis Podalydès, les metteurs en scène avec en duplex depuis Lyon Claudia Stavisky qui met en scène Lorenzaccio, un spectacle qui tourne dans la région lyonnaise, et enfin les propos d'un universitaire, maître de conférences en littérature française à Rouen, spécialiste du théâtre romantique, Sylvain Léda, auteur de Alfred de Musset, Les fantaisies d'un enfant du siècle, paru chez Gallimard, et à qui on doit aussi les présentations des éditions chez Garnier Flammarion de La confession d'un enfant du siècle et des deux maîtresses. Bienvenue à vous trois, et pour ouvrir l'émission, voici tout de suite une première archive.
Musset avait un peu plus de 20 ans lorsqu'il écrivit une série de proverbes dont quelques-uns furent joués avec succès. Un caprice, il ne faut jurer de rien, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, le chandelier, etc., etc. Ces comédies-proverbes, qui sont de véritables petits chefs-d'œuvre du genre, sont restés au répertoire de la Comédie française et sont joués fréquemment avec le plus grand succès. On ne badine pas avec l'amour, pas plus que Fantasio, n'avait été écrit pour être joué. La pièce apparut dans la Revue des Deux Mondes le 1er juillet 1834. Musset l'avait composée dans les mois qui suivirent son retour d'Italie, après sa rupture avec George Sand. Il n'est donc pas étonnant qu'elle porte des traces de l'état moral où était l'auteur. Le caractère étrange de Camille, certains passages du rôle de Perdican, la lutte d'orgueil entre ces deux personnages font reconnaître l'influence des souvenirs douloureux contre lesquels le poète se débattait. Vous allez donc entendre « On ne badine pas avec l'amour ».
Doucement percé sur sa mule fringante, Messer Blasius s'avance dans les bluets fleuris, vêtu de neuf, l'écritoire au côté. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi, et les yeux à demi fermés, il marmotte un paternoster dans son triste manteau.
Salut, maître Blasius! Vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique.
Ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici premièrement un verre de vin frais.
Voilà notre plus grand écuel. Buvez, maître Blasius. Le vin est bon.
Voilà donc une première archive, ces archives délicieuses de la Comédie française. Elles datent de 1949 et cette archive nous précipite d'une certaine manière immédiatement dans ce qui touche à la biographie de Musset. Musset, je le disais, naît donc en 1818, le siècle qu'il épouse et dont il ne va vivre au fond qu'une moitié puisqu'il meurt en 1857. Ce 19e siècle sera aussi celui de Victor Hugo, de Lamartine, de Sainte-Beuve. C'est le siècle des romantiques. Est-ce pour autant le siècle des auteurs torturés, des êtres fragiles, des écrivains mélancoliques? Les passions comme les affects s'y expriment, quoi qu'il en soit, avec beaucoup de force. On n'est pas forcément obligé d'analyser la biographie d'un auteur lorsqu'on veut entrer dans l'œuvre de cet auteur. Néanmoins, avec Musset, il semble que ce soit difficile de décorréler la vie de l'œuvre, Sylvain Léda. Et j'aimerais bien qu'on commence justement par d'abord ce siècle dans lequel a vécu Musset, même s'il n'y a vécu que brièvement, et puis aussi cette vie qui fut la sienne, en tout cas à ses débuts, puisqu'on va développer tout au long de l'émission ce qu'il en a été de son existence tumultueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce siècle des romantiques, est-ce que c'est important, concernant Musset, de parler du romantisme, Sylvain Léda?
Je crois que c'est fondamental et en même temps, c'est problématique dans le cas de Musset. Hein, puisque Musset s'est très vite désengagé du mouvement romantique et il se considérait comme l'homme de deux siècles, hein, l'homme du 18e et du 19e siècle. Sa passion pour le théâtre, c'est d'abord une passion pour les proverbes de Carmontel, donc pour un auteur du 18e, pour Molière surtout, qui reste et qui restera toujours son modèle et son maître. En revanche, il se montre beaucoup plus ironique, parfois distant même, avec les créations de son temps. Hein. Dans « Il ne faut jurer de rien », par exemple, il se moque de la tour de Nesle d'Alexandre Dumas. Et dans sa correspondance, on voit bien qu'il privilégie toujours le théâtre ancien, le théâtre du passé. Donc, c'est un romantique né classique, comme on l'a pu dire hein, au niveau critique. Et en même temps, il est l'archétype du romantisme par sa vie, par ses passions, par ses élans, par ses foucades et par ce désenchantement dont il est un des modèles, un des modèles littéraires.
Mais est-ce que malgré tout, à ses débuts, au début de sa carrière, il a épousé ou pas finalement ce mouvement littéraire romantique qu'a si bien défini Victor Hugo lorsqu'il a écrit la préface de Cromwell? Il a écrit là un manifeste qui posait les bases de ce qu'allait être le romantisme. Est-ce que Musset s'est rangé pour commencer derrière des gens comme Victor Hugo?
Très rapidement. Hein, en 1828-29, il fréquente un petit peu Victor Hugo, il s'en détache très vite. En 36, dans les lettres de Dupuis et Cotonnet, il se moque du grotesque et du sublime. Hein. Musset n'a pas cette vision du théâtre. Pour lui, le théâtre, c'est un art de fantaisie, d'où Fantasio aussi, et non un art du sublime et du grotesque. Pour Musset, le grotesque, ce n'est pas la fantaisie, c'est autre chose. Donc, il est complètement imprégné de la culture romantique, c'est-à-dire de la découverte des chefs-d'œuvre étrangers, de Shakespeare, de Hoffmann, de Jean-Paul. Mais en même temps, il se prend très vite de la distance. Donc, il y a un va-et-vient entre sa culture, très ouverte, on va dire, et en même temps, une sorte de mise à la marge très rapide. Mmh. Hein. Et notamment, il se marginalise à l'égard de Victor Hugo. Il préfère aller chez Nodier, par exemple, qui est l'homme de deux siècles, hein, qui est un érudit, plutôt que chez Hugo, qu'il considère avec un petit peu d'ironie.
Cécile Brune, lorsque vous avez entrepris de jouer ce Fantasio sous la direction de Denis Podalydès, vous vous êtes plongée dans la vie de Musset. Elle est fascinante, cette vie. Et la question, je la poserai aussi à Claudia Stavisky qui nous écoute depuis Lyon.
Oui.
Cécile Brune.
Oui, j'avais, sur les conseils de Denis d'ailleurs, j'avais lu la biographie de Franck Lestringant.
Oui, qui était la première biographie écrite depuis 60 ans, je crois.
C'est possible, oui, mais qui est un gros livre. Et effectivement, oui, il y a énormément on apprend plein de choses passionnantes sur sa vie, et puis en corrélation évidemment avec son œuvre, toujours. Enfin, en ce qui concerne Fantasio, moi, ce dont je me souviens, alors peut-être que je fais erreur par rapport à ce qui a été dit dans les archives, c'est que ça avait plutôt été créé pendant son histoire d'amour avec George Sand. Alors, vous me dites si je me trompe, et non pas
après,
avec la rupture.
Oui.
Et ils étaient même plus ou moins en concurrence, puisque je crois que George Sand, à ce moment-là, écrivait une pièce assez indigeste qui s'appelle Aldo le Rimeur. Et d'une certaine façon, Musset prenait un peu les idées de Georges, mais les a développées de façon beaucoup plus fantaisiste, évidemment. Mmh. En tout cas, avec Fantasio, qui est une esquisse de Lorenzaccio, puisqu'elles ont été écrites, je crois, à peu près dans le même temps, enfin,
oh, c'est
1833.
Les 32 à 34, il n'arrête pas d'écrire des pièces fondamentales pour la suite.
Pendant deux ou trois ans, il a écrit énormément, et puis après, c'est vrai que son œuvre, il s'est beaucoup plus marginalisé jusqu'à le succès extraordinaire du Caprice, justement un Caprice qui s'est joué en 47, grâce à une actrice au départ qui le jouait à Saint-Pétersbourg, je crois.
Absolument.
Et en fait, madame, je crois que c'est Madame Allan des Préaux qui, quand elle est entrée au Français,
a
exigé qu'on joue un Caprice, et c'est là qu'il est devenu tellement populaire qu'on disait même, c'est de la Comédie française, c'est la maison de Musset.
Oui,
c'était plus la maison de Molière, c'était celle de Musset. Claudia Stavisky, c'est un vrai personnage de théâtre, cet Alfred de Musset.
Ah oui, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, mais qui est effectivement à la dimension des personnages qu'il a écrits. Dans chacune de ses pièces, on trouve des personnages aussi complexes, aussi... avec autant de facettes, avec autant de couleurs, c'est la représentation de l'humanité dans son ensemble, oui.
Sylvain Léda, on le sait, Musset écrit très vite, c'est un étudiant très brillant, et il réussit brillamment ses examens, il est au lycée Henri IV, si oui. Je ne m'abuse. Il écrit très rapidement des textes, des poèmes... Et puis se passe, lorsqu'il a 22 ans, cet événement qui sera un événement majeur, qui est la mort de son père. Qu'est-ce qui se passe à la mort de son père ?
À la mort de son père, il se passe des choses à la fois matérielles et spirituelles, je pense, hein, puisque ayant perdu son père, il perd aussi une certaine aisance matérielle. Son père meurt en avril 1832 de l'épidémie de choléra, qui tue aussi Casimir Perier, le président du Conseil. Et à ce moment-là, Musset doit faire un choix, c'est-à-dire s'engager. Pour lui, la littérature, c'était encore un jeu jusqu'en 1832. Ça le reste toute sa vie. À mon avis, la littérature est un jeu pour lui. Et Franck Lestringant, dont vous parliez et à qui je tiens à rendre hommage, le dit très bien dans sa biographie.
Vous voulez dire qu'il y a une forme de dilettantisme dans sa façon d'appréhender la littérature, l'écriture?
Il y a une posture dandy, je dirais, une posture auctoriale qui est celle d'un dandy, d'un dilettante. Et en même temps, je pense qu'il faut se méfier de l'idée qu'il composait très vite. Je pense que Musset devait... Il y a cette impression que tout est constamment improvisé, mais je pense qu'il y a une maturation aussi des œuvres en lui. Après, évidemment, il y a cette vision du génie adolescent. Il y a cette urgence d'écrire aussi chez Musset. Qu'on trouve aussi, par exemple, chez un artiste né en 1810 comme lui et qui vit 46 ans comme lui, Schumann, qui meurt en 1856. Ils ont le même âge. Il y a une urgence à créer dans cette fantaisie, dans cet élan de créativité. Et en même temps, on voit qu'il y a une sûreté du trait. Par exemple, dans le manuscrit de Lorenzaccio est très bien écrit, très précis. Donc il y a à la fois cette idée que c'est une littérature improvisée, mais une littérature très pensée, très construite aussi.
Donc il y a de la maturité, mais exactement comme on pourra le dire plus tard de Rimbaud,
oui.
Qui naît finalement quand Musset meurt et qui très vite lui aussi sait ce qu'il écrit, même s'il l'écrit dans l'urgence et dans une forme de contraction du temps.
Oui, je pense qu'il y a une conscience de l'urgence et quand son père meurt, pour revenir à votre question, Musset doit faire un choix et il s'engage en littérature, si j'ose dire, avec la première version du spectacle dans un fauteuil, la version en vers avec À quoi rêvent les jeunes filles, La coupe et les lèvres et puis Namouna. Donc là, c'est vraiment sa première grande œuvre après les Contes d'Espagne et d'Italie.
Alors, la première tentative théâtrale de Musset, c'est La Nuit vénitienne. Et je le disais en ouverture de cette émission, c'est un échec absolu. Vous avez lu La Nuit vénitienne, Cécile
Brune ?
Oui,
il y a longtemps.
Et alors ? Quels souvenirs est-ce que vous en gardez ?
Écoutez, non, je ne voudrais pas vous...
C'est ça, ça ne laisse pas un souvenir impérissable, en toute évidence.
C'est un souvenir impérissable. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était pour lui un échec absolu. Et ce qui fait qu'effectivement, par la suite, il a peut-être été... Il s'est senti plus libre d'une certaine façon et plus iconoclaste, comme je dirais, entre guillemets, il boudait. Il était boudé et donc il a dit, bon, c'est très bien, maintenant j'écris pour un fauteuil. J'écris ce que je veux.
Écrire pour un fauteuil, donc ça veut dire quoi, clairement ?
Alors,
Sylvain Léda.
Écrire pour un fauteuil, c'est écrire un théâtre à lire. Et le théâtre à lire, à l'époque romantique, ce n'est pas du tout original. On lit beaucoup de théâtre historique, on lit beaucoup de pièces sans les voir. Et personnellement, je ne crois pas que Musset ait renoncé jamais à la scène. Je pense qu'il est obsédé par le théâtre. Il est hanté par le théâtre. Il est tous les soirs à l'opéra, enfin très souvent à l'opéra, très souvent au théâtre. Il connaît la vie théâtrale par cœur. Je pense que ça le démange. Je pense qu'il en rêve toute sa vie. Et d'ailleurs, quand un caprice est créé, il est tous les soirs au théâtre. Il va voir sa pièce très souvent. Je pense qu'il y a une obsession du théâtre.
Et surtout un défi. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus un défi de sa part, un défi du jeune homme, de dire de toute façon, aucune représentation théâtrale n'arrivera aux chevilles de ce qu'un lecteur peut éprouver en lisant un livre. Donc, voilà, j'écris quand même du théâtre et débrouillez-vous. Je crois que c'est beaucoup plus un appel absolument formidable à la créativité des metteurs en scène et des acteurs qu'une déclaration sur le théâtre ou une retraite, comme on pourrait le croire.
Mais de quelle manière est-ce que ça se manifeste dans la structure et dans l'écriture, justement, quand, malgré tout, cet éloignement de la préoccupation du plateau?
À mon avis,
Claudia Stavisky.
À mon avis, c'est beaucoup, beaucoup moins romantique. Enfin, en tout cas, le travail sur Lorenz Hatcho m'est apparu comme une œuvre beaucoup moins romantique qu'on me l'avait apprise à l'école. Et par contre, une œuvre profondément politique, une réflexion très, très, très profonde sur l'humanité et sur son devenir. Pour qu'il y ait des enchantements, il faut qu'à un moment donné, il y ait eu utopie. Mmh. L'utopie de cet homme qui me semble extraordinairement proche. Enfin, il y a quelque chose dans Lorenz Hatcho, quand on le lit aujourd'hui, qui me semble d'une modernité extraordinaire, d'une modernité violente, et même d'une modernité tout à fait propre aux jeunes d'aujourd'hui. Si Musset se disait lui-même l'homme de deux siècles, c'est parce que dans le 18e et dans le 19e siècle dans lesquels il a vécu, dans le 18e siècle, il a eu 1789. Quelques années après, 1830, 40, 50 années après, il écrit lui-même dans la confession d'un enfant du siècle, je ne veux pas le citer parce que je ne me rappelle pas mot par mot, mais il écrit qu'on lui a légué, on a légué à la jeunesse de 1830 un territoire dévasté où il n'y a plus de place ni pour les rêves ni pour les utopies. Mmh. Et ça me fait penser très très violemment à la jeunesse d'aujourd'hui qui, 40 ou 50 ans après les années 68 et tout ce qui en a suivi, s'adresse à nous de façon, nous, parce que j'ai l'âge d'être une enfant de cette génération-là, de la génération de 68, s'adresse à nous d'une façon extraordinairement violente sur ce que l'on a produit, finalement, et de la façon dont le retour du pendule s'est fait à leur dépens.
Jean-Pierre Vincent dit de Musset qu'il a été le premier à valoriser la jeunesse. Que c'était finalement avant lui, cette jeunesse, elle était méconnue, pas traitée, maltraitée sans doute par les auteurs du 19e siècle. Sylvain Léda, Cécile Brune.
Maltraitée par les auteurs du 18e, c'est-à-dire...
Méconnue, disons.
Méconnue. Je ne saurais pas trop quoi répondre là-dessus. Il y a, bon...
Marivaux.
Il y a Marivaux, mais disons que la thématique de Marivaux n'était effectivement pas la jeunesse. Mmh. C'était une thématique sociale, essentielle. Bon, ben voilà, entre maître et valet, et puis une réflexion aussi beaucoup, très souvent sur l'argent. Mais il n'y avait pas effectivement ce qu'il a développé lui, c'est-à-dire... qu'est-ce que c'est qu'être jeune, effectivement, après la dévastation de l'Empire, alors qu'il n'y a plus... Il n'y a plus d'idéal. Enfin, il s'est situé quasiment tout le temps, et c'est ce que raconte un petit peu Fantasio dans la grande scène avec Spark du début. Il se situe toujours dans un entre-deux. C'est-à-dire que c'est... Et ce personnage-là qu'est Fantasio, il est toujours au bord de l'action. Il y a une envie, un désir d'agir qui est tout de suite freiné. Et voilà, et... C'est cette espèce d'action, non-action tout le temps. Mmh. À la fois de dandy, d'élégance, qui lui donne cette espèce comme ça. Et en même temps, d'envie de tout envoyer balader. Quoi.
Alors, puisque vous parlez de Fantasio, on va écouter un extrait justement de Fantasio qui date de 1967.
Fantasio et son ami Spark sont assis à la terrasse d'une taverne. Au loin, les musiques populaires fêtent le mariage de la princesse Elsbeth.
Eh bien, ami, que ferons-nous de cette belle soirée?
Tout, absolument. Or, un roman nouveau.
Tu as le mois de mai sur les joues.
C'est vrai. Et le mois de janvier dans le cœur. Ma tête est comme une vieille cheminée sans feu. Il n'y a que du vent et des cendres. Ah, que cela m'ennuie que tout le monde s'amuse. Je voudrais que ce grand ciel si lourd fût un immense bonnet de coton pour envelopper jusqu'aux oreilles cette sotte ville et ses sots habitants. Allons, voyons. Dis-moi de grâce, un calembour usé, quelque chose de bien rebattu.
Pourquoi ?
Pour que je ris. Je ne ris plus de ce qu'on invente. Peut-être que je rirai de ce que je connais.
Voilà, donc ça c'était un extrait qui date de 1967. Pierre Bertin jouait le rôle, une drôle de pièce, hein, Fantasio, que Denis Podalydès a décidé de faire interpréter pour le rôle titre lorsqu'il a créé la pièce en 2009 aux Français par une femme, c'est-à-dire vous, Cécile Brune. Et en ça, il a brouillé encore un petit peu plus les frontières de la normalité qui, dans cette pièce, sont déjà sérieusement malmenées. Vous jouez donc ce Fantasio décadent, jouisseur, noyé dans les vapeurs d'alcool. Est-ce que ce Fantasio est le double, le jumeau, le frère de Musset, Cécile Brune ?
Oui, certainement. En tout cas, le personnage de Fantasio représente, en tout cas dans la vision qu'en a Denis, oui, tout à fait le portrait de Musset. Et il y a, dans la pièce en elle-même, qui était effectivement extrêmement bizarrement construite, si on veut, un premier acte qui est ce portrait du poète dandy qui refuse même le fait même d'écrire, puisque un verre de vin vaut mieux qu'un sonnet, qui se grise volontairement pendant tout le premier acte. Et la vision, quand je parle à la place de Denis un petit peu, puisque c'est sa vision à lui, qu'il a du second acte, c'est-à-dire de l'histoire proprement dite, issue un peu des contes d'Hoffmann, enfin, entre Elsbeth et puis ce prince de Mantoue, ce mariage qui finalement va être compromis par Fantasio déguisé en bouffon. Denis le voyait presque comme peut-être un songe issu des vapeurs d'alcool, oui, de tout ce premier acte.
C'est-à-dire tout ce que ça suppose d'irréalité, voilà, hein, et d'impalpable de ce à quoi on assiste. Voilà.
C'était un petit peu vers ça qu'on est allé, en tout cas, dans l'idée de mise en scène, de ne pas trop savoir si finalement cette histoire du second acte est réelle ou pas. Et quand il retrouve ses amis à la fin, on peut se dire il a rêvé tout ça.
Que tout ça était un rêve ou un cauchemar. Voilà qui nous ramène quand même vers cette dimension, alors pour le coup purement biographique, de la vie de Musset, Sylvain Leda, qui est ce Musset abîmé et totalement altéré, détruit, dévasté par l'alcool. Parce que il y a quelque chose chez lui, alors pour le coup là aussi, de l'ordre de l'enfant maudit de son siècle.
Oui. Musset, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point Baudelaire et Rimbaud
le détestent et n'ont rien compris.
Je pense que
c'est
pas les seuls. Je pense qu'il y a une critique spéculaire dans cette vision négative de Musset, qui effectivement était très imbibé et très jeune. Il buvait beaucoup.
Son génie s'est noyé dans un tonneau, disait Flaubert.
Oui.
C'est cruel.
Mais alors là, il avait aussi la version de Louis Scollet qu'il avait fréquenté durant l'été 1852, alors que c'est vraiment Musset vieillissant qui vient d'être élu à l'Académie française et qu'on appelle le chancelant perpétuel. Donc je pense aussi que Flaubert est beaucoup plus nuancé que ça, au fond, quand on lit toute la correspondance. Il a conscience, je crois, du talent de Musset, mais les lettres qu'il échange à ce moment-là avec Louis Scollet, il y a un trio Louis Scollet, Flaubert, Musset, dévastent l'image de Musset aux yeux de Flaubert. Mais je crois qu'effectivement la poétique de l'alcool qu'on a dans Fantasio, dans Les Caprices de Marianne, Octave, qui communique en vin à cette large coupe, etc. Chez Lorenzaccio aussi, dans Lorenzaccio aussi, et puis dans les petits proverbes de salon, il y a toujours cette présence du jeu de l'alcool. La réalité va progressivement manger la fiction et la créativité de Musset. Et c'est vrai que à partir de 1850-52, les créations restent beaucoup plus moins fortes. Et même entre 1840 et 1850, il écrit moins, même s'il écrit des contes.
Vous voulez dire que la réalité de l'alcoolémie finit par
l'emporter,
amoindrir la créativité.
Et en même temps, il y a un secret chez Musset. Hein. Je crois que c'est en 1842, je sais plus, ou 40, il écrit un sonnet à Caroline Jobert pour lui confier. Il explique qu'il a passé une soirée avec elle et il lui a confié le secret de son alcoolisme. Alors pourquoi ? Est-ce qu'il avait... On a pu penser qu'il était malade physiquement, hein, qu'il avait eu une maladie qui s'était mal soignée pendant sa jeunesse. Il y a cette blessure quand même qui remonte à sa 18e année. Donc on suppose que cet alcoolisme est lié à un secret aussi en Musset. Il y a un mystère autour de ça de toute façon.
Vous développez dans le livre Les deux maîtresses, enfin le livre que vous avez préfacé et que vous avez aussi annoté en fin d'édition, Sylvain Leda, toute une théorie sur le dandysme de Musset qui me paraît intéressante. Est-ce que Fantasio est un dandy ? Cécile Brune.
Oui, oui, il est bon, ça
Fantasio
se passe.
Donc s'introduit dans une maison pour fuir ses dettes, se fait passer pour un bouffon.
Et ça genre situe un petit peu le oui. début. Ça se passe dans une Bavière, un petit peu comme ça, d'opérette, où il est avec tous ses camarades en train de s'ennuyer finalement au moment où on annonce le mariage prochain de la princesse Elsbeth. Et c'est un dandy, c'est en tout cas ainsi que ses camarades le voient. Il est d'emblée présenté, où est donc Fantasio, etc., comme celui qui entraîne toute cette jeunesse et qui, ben, disons qu'il le magnifie un peu comme ça. Mais c'est surtout un dandy, je pense, dans la position qu'avait Musset, c'est-à-dire, encore une fois, je me répète, mais ne faisons rien, rien ne sert à rien, rien ne sert jamais à rien.
Mais vous savez qu'il m'évoque, quand vous en parlez, moi, il m'évoque le bal de Brecht. Claudia Stavisky, non, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bal de Brecht dans cette figure de Fantasio ?
Bien sûr, c'est tout à fait vrai.
La perdition, l'utopie qui est...
Ah, le bal de Brecht.
Oui. Désenchantement.
Oui.
Oui, c'est sûr.
La course est perdue vers la destruction.
Mmh. Vers le néant, oui.
Oui. Hein
ouais. Mais en tout cas, c'est marrant parce que... Oui. C'est... Évidemment, comme moi, je suis plongée sur Laurent Satur, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce côté dandy dont on parle.
Baudelaire disait que le dandy était le symbole de la modernité. Je l'ai lu dans votre livre, Sylvain Léda.
Oui, alors...
On en revient toujours à cette modernité de Musset. Hein.
Modernité de Musset, et puis le dandy aussi ne s'engage pas politiquement. On s'engage en se désengageant, voilà, d'une certaine manière. Hein, je crois aussi que c'est un dandy bohème aussi, Fantasio. Il y a quelque chose de la bohème chez Musset, au sens de cette vie parallèle, un petit peu artiste, un petit peu en marge. Et tous les fantaisistes de la seconde moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle, même des gens comme Paul-Jean Toulet, se sont réclamés de Musset.
Mais il y a une chose aussi, pardon, je vous interromps, c'est que très souvent, me semble-t-il, on a tendance à faire du mot dandy de l'assimiler à quelque chose de précieux, en particulier sur le plan vestimentaire, etc. C'est vrai qu'il était très coquet, mais c'est pas ça le dandisme. Enfin, au sens où je pense on l'entend par rapport au personnage de Musset, c'est pas ça. C'est beaucoup plus iconoclaste que ça. Mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu dans notre vocabulaire un synonyme de préciosité.
Est-ce que le dandisme, justement, est quelque chose qui se retrouve en tant qu'esthétique, Sylvain Léda ? Je parle d'esthétique littéraire.
Oui, je pense chez Musset, il y a un plaisir à décrire, notamment dans les deux maîtresses que vous citiez, ou même dans ses autres nouvelles, hein, dans ses contes. Il y a une mise en scène du moi, il y a une mise en scène du dandisme, il y a la description des lieux dandys, le café Tortoni, le Jockey Club, tous les lieux qui étaient fréquentés par les lions, les fashionables, toute la corde des dandys du boulevard. Donc il y a plutôt une thématique dandy chez Musset, plutôt qu'une écriture dandy, même si on peut considérer que le dilettantisme fait partie du dandysme.
Mais est-ce que le dandysme, ce n'est pas aussi chez lui, ça rejoint ce que vous disiez par rapport au romantisme, une façon, encore une fois, de se singulariser, de se marginaliser, parce que ce qu'on a un peu comme impression, c'est que c'était quelqu'un qui finalement a traversé cette moitié de siècle de manière très solitaire.
Oui. Et en même temps, il y en a d'autres. On pense à Théophile Gautier. Et j'ai envie de parler de Gautier parce que c'est le premier à avoir perçu le génie de Musset. Et dès qu'il devient journaliste pour la presse en 1836, il ne cesse de réclamer qu'on joue les pièces de Musset. Les Caprices de Marianne, Un Caprice, etc. Il y a des dandys comme ça, comme Gautier, comme Musset. Nerval à sa manière aussi. Donc je pense que c'est surtout une singularité d'auteur qu'ils essayent de définir. Mais chez Musset, il y a la différence que c'est un aristocrate et qu'il n'oublie jamais qu'il est vicomte. D'où ces rapports assez étroits et assez chaleureux avec Vigny, par exemple.
C'est compliqué à jouer, Musset, Cécile Brune ?
Oui, je ne vais pas vous dire que c'est plus compliqué qu'autre chose, mais en tout cas, oui, ce qu'on a essayé d'éviter, c'est justement, pendant longtemps, on a tendance parfois un peu à enjoliver son écriture. Bon. D'ailleurs, je trouve que l'extrait, c'est mon goût personnel, mais l'extrait qu'on vient d'entendre de Fantasio...
c'est un vieil extrait.
Ça fait sourire. Parce que,
ça n'est pas comme ça que vous jouez à la Comédie française, heureusement. Mais du temps a passé et de l'eau a coulé sous les ponts.
Il faut faire très attention, parce que c'est une langue quand même qui est, en tout cas dans tout le premier acte, très finement ciselé, à pas enjoliver la chose et à aller au contraire, me semble-t-il, c'est dans l'expression de sa fantaisie et plus que ça, de son, je cherche le mot, dans le fait même, dans sa jouissance, qui va exprimer son désespoir. C'est-à-dire que On a essayé de faire en sorte que qu'il soit extrêmement joyeux, extrêmement jovial, extrêmement... Alors qu'effectivement, tout d'un coup, il s'effondre.
Mais au fond, c'est ce que je disais en ouverture de cette émission. Musset, c'est à la fois l'envers et l'endroit, c'est le pur et l'impur, c'est le grandiose et ce qu'il y a de plus bas sur la terre, c'est le profane et le sacré, c'est en permanence l'association de ces contradictions-là, Sylvain Léda.
Oui, et puis, pour théâtralement, c'est un théâtre très physique et c'est un théâtre d'espace. Enfin, je pense que notre metteur en scène de Lyon peut-être le confirmera.
Absolument,
justement, ce sacré, cette dimension sacrée, cette dimension anti-sacrée, elle se manifeste aussi au théâtre dans sa représentation de l'espace. C'est un théâtre d'objets, d'où sa modernité aussi. Je ne pense pas que ce soit qu'un théâtre de la parole.
De
au
la
contraire.
Déclamation, oui. Alors, Lorenzo, nous y arrivons tout de suite. Mais avant d'arriver à vous, Claudia Stavisky, au travail que vous menez à Lyon actuellement, plutôt dans la région lyonnaise avec la mise en scène de Lorenzo, je vous propose d'écouter une autre archive. Elle date de 1986 et c'est Daniel Mesguich qui s'exprime. Après Mesguich, nous entendrons un autre extrait de Lorenzo qui lui non plus n'est pas récent puisqu'il date de 52, vous l'aurez reconnu, c'est celui qui implique Gérard Philippe. Daniel Mesguich.
Je crois vraiment qu'il y a deux parties dans l'œuvre de Musset, Lorenzo d'un côté et tout le reste de l'autre. C'est l'effet en tout cas que ça me fait à moi. Ce que j'aime pas chez Musset en général, c'est le côté un peu léger, un peu badin, un peu marivaudage du 19e. En revanche, dans Lorenzo, je crois qu'il n'y a absolument pas ça. Vous savez, la même année, Musset a écrit « On ne badine pas avec l'amour », Fantasio et Lorenzo. Et il ne s'est pas relu. Il appelle la marquise Gibault marquise au début, et puis au milieu de la pièce, il l'appelle la comtesse. Enfin, il avait oublié qu'elle était marquise. Donc, je veux dire par là qu'il faut bien remettre les choses à leur place. Musset nous paraît un grand auteur qu'on apprend à l'école, etc. Il avait 24 ans. Il avait 24 ans, c'était un bébé, il avait écrit trois pièces à toute vitesse, il était très doué. Mais je crois vraiment que si on montait Lorenzo intégralement, d'abord ça durerait 8 heures, ça ennuierait tout le monde. Et d'autre part, je pense que c'est vraiment très inégal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages qui, comment dire, qui n'appartiennent pas vraiment au théâtre. À l'époque, la dramatique télévisée historique n'existait pas. Alors il y allait un petit peu de sa dramatique télévisée historique de l'époque.
Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzo. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur, et les pères ne prennent pas, quand je passe, leurs couteaux ou leurs balais pour m'assommer. Au fond de ces 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré. Pas une ne vomit à ma vie un valet de charrue qui me fend en deux comme une bûche pourrie. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je, oh Philippe ? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre le poing de rage en remuant 4 ou 5 méchantes pièces d'or.
Que le tentateur ne méprise pas le faible. Pourquoi tenter lorsque l'on doute ?
Suis-je un Satan ? Lumière du ciel, je m'en souviens encore. J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite si elle ne s'était mise à rire.
Voilà, vous venez d'entendre Claudia Stavisky, oui. Vous qui êtes en duplex à Lyon avec nous sur France Culture pour cette émission consacrée aujourd'hui à Musset. Vous venez d'entendre Daniel Mesguich qui s'exprimait en 86 et qui était extrêmement critique sur les qualités du Musset, auteur de, par exemple, On ne badine pas avec l'amour ou de Fantasio, des pièces, dit-il, écrites sans relecture, des pièces de jeunesse, au fond des pièces un peu bâclées. Et finalement, la seule que Mesguich sauve du naufrage, c'est Lorenzo, qui est une pièce qu'on sait quasiment injouable dans sa totalité. Est-ce que, je vais vous demander une chose assez difficile, Claudia Stavisky, mais vous êtes en mesure de le faire puisque vous êtes à l'œuvre sur ce texte. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros quelle est l'intrigue de Lorenzo, pour commencer, avant d'aller plus loin?
L'intrigue, donc, nous sommes en Florence.
S'il n'y en avait qu'une.
Oui. Oui. En fait, il n'y a qu'une. Mais décliné en 5 stratégies différentes, si vous voulez, qui sont les 5 points de vue différents de Lorenzo. Enfin, vous disiez vous-même tout à l'heure, l'endroit est l'envers, le clair et l'obscur. Là, nous sommes à Florence pendant la Renaissance. Florence est gouvernée par Alexandre de Médicis. Et les premières clameurs, enfin la première, les premières luttes pour la République, qui n'était pas évidemment telle qu'on l'entend aujourd'hui et telle qu'on l'entend après, mais quand même les premières luttes politiques vraiment importantes pour établir une République qui soit au service des hommes font rage. Alors, il y a différentes... Dans cette ville de Florence, qui est en fait un des personnages principaux de la pièce, dans cette ville de Florence, il se trouve plusieurs stratégies. Celle de Lorenzo, qui est celle, effectivement, de la violence. C'est en ça qu'il ressemble beaucoup à Hamlet. C'est un jeune homme privé de sa couronne, privé de son destin couronné. Et qui va dans un monde dans lequel il ne peut pas vivre et il ne peut pas respirer, dans un monde dévasté, qui est beaucoup plus proche de celui de 1830 que celui de la Renaissance, va opter pour la violence. La seule et unique possibilité qu'il voit, lui, c'est effectivement la violence et donc le régicide, l'assassinat du duc. Il y a Philippe, la famille d'Estrozzi, qui est une famille des très grands républicains, très, très, très respectée, qui est la voix de la connaissance et de la sagesse. Philippe Strozzi étant effectivement un savant, un philosophe, un penseur, un scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit sur le monde et qui réfléchit tellement qu'il se trouve dans l'incapacité totale d'agir. Dit Musset parce qu'il a des cheveux gris, mais en fait Philippe va s'expliquer très 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 longuement sur son incapacité d'agir lorsqu'il s'agit de la chose publique, c'est-à-dire cette espèce de faisceau de coïncidences qui font que tout mouvement politique devient impossible.
Est-ce que c'est la pièce la plus politique de Musset, selon
vous ? Ça c'est clair. Oui. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Daniel Mesguich, c'est il y a Lorenzaccio et puis il y a l'œuvre de Musset.
Reste, oui.
Et ce sont deux œuvres en soi, quoi.
Sylvain Hédard n'est pas vraiment d'accord avec Mesguich, et même à peine avec vous. Hein.
Ah
on
bon.
Va y venir, Sylvain Hédard.
Il y a la troisième. La troisième option qui est celui du cardinal, qui est effectivement tout changé pour que rien ne change, pour que le pouvoir continue à être celui en place. Donc finalement profiter du meurtre du duc pour en élire un autre. Il y a la stratégie de la marquise, qui est la stratégie de... Moi, en tant que femme, je pourrais te changer. Je pourrais changer l'homme, mais non pas changer le système, comme s'il suffisait de changer d'homme pour changer de système. Et puis, il y a celle du peuple, qui consiste à se pâmer devant 6 fois le chiffre 6. C'est-à-dire à être finalement totalement en dehors de toute possibilité, enfin de tous les lieux où le complot se tisse, ou de tous les lieux où les pouvoirs se tissent, à n'être que spectateur, dans le meilleur des cas, de l'histoire dans laquelle ils sont obligés de vivre.
Alors Sylvain Léda, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Daniel Mesquich ?
Ce n'est pas une question de ne pas être d'accord, c'est plus de la nuance. Je pense que ce n'est pas parce qu'on écrit des pièces qui ne sont pas a priori politiques qu'on ne parle pas de politique ou qu'on ne parle pas de la situation d'un moment historique. Je pense par exemple à une pièce comme Les Caprices de Marianne. Il y a même si la pièce se déroule en Italie, à Naples, etc., ça parle quand même de la situation, de ce désengagement politique. Et on peut faire des liens entre Lorenzo et Octave, par exemple. Hein.
Bien sûr. Sauf si vous voulez que Lorenzaccio est une pièce entièrement accompli de ce point de vue-là, où effectivement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'avais beaucoup de mal à l'envisager comme une pièce romantique, enfin dans le sens du un peu vide du romantisme, enfin dans le sens qu'on lui accorde en règle générale, parce que c'est vraiment, comme dirait Antoine Vitez, un théâtre d'idées, c'est-à-dire que ce sont la jeunesse de Musset au moment où il l'a écrite, fait que ce sont vraiment des corps
d'une puissance tout à fait hors du commun, des corps avec une volonté et une puissance physique extraordinaire, y compris les vieux, y compris Philippe Strozzi, et en même temps cette espèce de connaissance, allez savoir, enfin je sais pas d'où ça venait, de connaissance des très grands auteurs. On va pas demander à Shakespeare d'où il connaissait tout ce qu'il connaissait sur le monde et sur la vie.
Ça, c'est vrai, quand on lit La Confession d'un enfant du siècle, on voit l'érudition hein, de Musset qui est oui. incommensurable.
Oui, et puis, pardon.
Oui, Claudia Stavisky.
Et qui fait qu'effectivement, les sujets qui sont traités dans toutes les pièces, mais qui sont développés dans la langue, dans la langue et la parole, c'est vraiment un théâtre des idées, où des positions et des idées extrêmement claires sur le monde se font face et sont discutées jusqu'au bout, jusqu'à épuisement.
Sylvain Léda.
Et je pense aussi qu'il y a une autre raison qui fait que Lorenzaccio est un peu un cas à part, c'est que Musset est essentiellement un auteur de comédie et de proverbes, et que Lorenzaccio avec André del Sarto est son seul drame, son vrai seul grand drame, avec comme il est l'auteur d'un seul roman, La Confession d'un enfant du siècle. Donc ce sont des œuvres à part. Après, je pense que l'affinité littéraire de Musset le porte davantage vers Molière, même s'il a admiré Shakespeare et qu'il l'admire jusqu'à la fin. Musset est un auteur de comédie, même si ce sont des comédies qui se terminent en drame. Il y a aussi cette perspective générique, je dirais.
Oui, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, sur Lorenzaccio, la proximité, la cohabitation, même avec Shakespeare, est tout à fait flagrante.
C'est sa pièce la plus shakespearienne. Vous diriez, vous, de Fantasio, Cécile Brune, qu'on est face, même s'il y a du corps, comme le souligne Claudia Stavisky, qu'on est face à un théâtre d'idées, au sens où pouvait l'entendre Antoine Vitez également.
Ah oui, aussi, oui. Bien sûr. En particulier, je vais redire la même chose, mais le fait que une fois qu'il est déguisé en, ce qui différencie selon moi, enfin beaucoup Fantasio de Lorenzaccio, c'est que l'acte de Lorenzaccio, ce sera un acte véritablement
criminel,
c'est-à-dire un acte criminel.
Il l'accomplit.
Or, dans Fantasio, on a d'une certaine façon la même idée, mais vue de manière totalement dérisoire. C'est-à-dire que le seul acte qu'il va faire, après avoir pris la place, n'oublions pas aussi d'un homme mort, ce qui est quand même assez étrange, il va retirer la perruque d'un espèce de prince.
Une fameuse perruque. Ouais.
Mais c'est aussi, ça veut dire aussi quelque chose politiquement. Ça veut dire que même l'acte le plus risible, entre guillemets, sauve quoique, puisqu'il va y avoir la guerre. Donc oui, c'est une pièce aussi d'une grande portée politique.
Il me vient une idée, enfin une pensée en vous écoutant, Cécile Brune, c'est que finalement, Denis Podalydès, et on se retournera vers vous, Claudia Stavisky, finalement, en vous mettant en scène, vous, une femme dans le rôle de Fantasio, a rejoint une longue tradition de mise en scène sur Lorenzaccio, qui est que, à partir du moment où Sarah Bernhardt a créé le rôle en 1896, me semble-t-il, ce sont des femmes qui ont interprété le rôle de Lorenzo, Sarah Bernhardt, Falconetti, Marguerite Jamois, jusqu'au moment où Villard, le mettant en scène en 52 dans la Cour d'honneur, a réintroduit un homme, Gérard Philippe en l'occurrence, dans le rôle. Qu'est-ce que Denis Podalydès, si vous pouvez parler à sa place, Cécile Brune, voulait acter en vous proposant le rôle à vous qui êtes une femme, ce rôle d'homme? Il voulait rejoindre quelque chose qui touche
non,
à une essence même de
Je crois que
Musset.
C'était pas du tout, dans son optique, c'était pas du tout de renouer avec cette fameuse, effectivement, tradition qui s'est développée
qu'il faut interroger quand même.
Mais c'était surtout, je crois aussi, parce que il y a chez Musset, enfin moi je trouve, dans son écriture et dans ses pièces, chez lui-même d'ailleurs, une ambivalence très grande entre le masculin et le féminin. Il souffrait, mais ça c'est, Lestringant en parle bien aussi, de ce qu'on appelle l'autoscopie, et il se voyait parfois en vieillard.
Qu'est-ce que c'est l'autoscopie?
C'est une espèce de dédoublement de personnalité. Et quand il était plus jeune, il parlait de lui au féminin. Il y a dans toutes ces pièces, je pense essentiellement à, comme il disait Proverbe, mais aussi à On ne badine pas avec l'amour, les femmes en général, je trouve, tirent un peu la, enfin, sont très très autant d'énergie et d'intelligence que quand on pense à Madame de Léry, par exemple. Pour moi, c'est un personnage d'une modernité extraordinaire. Et quand on prend Camille et Perdican, c'est Camille qui l'emporte à plusieurs reprises quand même. Enfin, je veux pas. Et il y a, je crois que c'était ça qu'il voulait, Denis, c'est-à-dire mélanger encore plus cette ambivalence ces deux pôles de, qu'il avait en lui, quoi, qui étaient masculin et féminin.
Claudia Stavisky, sur cette dualité masculin-féminin.
Ah oui, je trouve effectivement qu'il y a une très forte androgynie, en tout cas dans Lorenzaccio, dans Fantasio, dans tous ces personnages. Mais moi, mon choix n'a pas été un choix réfléchi. Je voulais que ce soit Thibaut Vincent
donc un
qui
garçon,
joue Lorenzaccio. Il se trouve que c'est un garçon.
Oui.
C'est celui vraiment, c'est cette personne-là que je voyais, c'est cet acteur-là que je voyais. Et que je désirais très, très, très fort. Mmh. Il se trouve que Thibaut est un garçon. Je ne sais pas si, peut-être que j'aurais flashé autant pour une actrice. Je ne sais pas.
Ça nous ramène, Sylvain Léda, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais je vais quand même tenter le rapprochement. Ça nous ramène quand même à cette histoire qu'on a abordée, mais qu'on n'a pas vraiment détaillée, qui est l'histoire qu'il a eue, Alfred de Musset, avec Georges Sand. Lorenzaccio est écrit après l'histoire avec Georges Sand, qui dure très peu de temps. Elle dure de 33 à 35. Hein.
Ah, c'est long déjà.
Oui, c'est pour une passion, c'est long, effectivement. Quand on sait comme ça peut être meurtrier. Mais est-ce que ça peut avoir un lien avec Georges Sand, justement, cette chose un peu double entre l'homme et la femme?
Alors, je ne pense pas, parce que ça existe déjà dans Les Caprices de Marianne, qui paraissent avant la rencontre avec Georges Sand, et ça existe déjà dans La Nuit Vénitienne, etc. Alors, Musset rencontre Sand en juin 1833. Leur liaison débute fin juillet, probablement pendant l'anniversaire des Trois Glorieuses. Mmh. Et effectivement, Lorenzaccio et Fantasio sont écrits entre août et décembre 1833. Donc avant, Musset n'a pas encore 23 ans. Il a 22 ans. Hein. Et donc Sand, qui est déjà qui est un peu plus âgé que lui, hein, puisqu'elle est née en 1804... Elle a 6 ans de plus que lui. Elle lui fait découvrir aussi, redécouvrir, relire Hoffmann et puis tous les romantiques allemands. Et puis elle lui donne ce fameux manuscrit qui va servir de base, une conspiration en 1537, qui est une scène historique au départ, hein, et qui va servir de base, de trame à Lorenzaccio. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Musset, à partir de ce manuscrit, va transformer un drame, au fond, en une pièce métaphysique et politique. Hein. Donc je pense que les deux pièces fonctionnent ensemble, effectivement, parce qu'elles sont écrites à peu près à la même époque, hein, à l'automne 1833, puisque Fantasio paraît, ils sont à Venise, paraît fin décembre 1833. Mmh.
Vous avez lu Lorenzaccio à l'aune de Georges Sand, de Claudia Stavisky?
Bien sûr, oui. bien sûr, c'est très très différent.
Comment vous avez procédé, vous, justement, avec, je le disais, ces 39 tableaux, ces 5 ou 6 actes, je ne sais plus combien il y en a, ces 6 à 7 heures de représentation, cette presque centaine de personnages. Vous avez coupé beaucoup?
Oui, j'ai coupé. J'ai coupé
mais
pas mal, j'avoue.
Comment on coupe dans une pièce de Musset? Parce qu'ils ont tous coupé, ils ont tous été obligés, parce qu'il y en a eu des mises en scène. Hein. Il y a eu, je le disais, il y a eu Villard,
oui,
il y a eu Raymond Rouleau, il y a eu Georges Lavaudan, il y a eu Daniel Mesguich, Jean-Pierre Vincent.
J'ai lu beaucoup, beaucoup d'adaptations. De mes collègues. Je trouvais quelques-unes, elles étaient formidables parce qu'elles privilégiaient complètement la partie politique. D'autres étaient absolument formidables parce qu'elles privilégiaient l'aventure individuelle. Et moi, ce que je voulais faire était laisser effectivement les deux parties, c'est-à-dire l'intime dans la politique et le politique dans l'intime, avec la même valeur et avec la même puissance. Garder tout ce qui pouvait faire que ces deux facteurs de l'histoire puissent courir au même temps. Je disais souvent aux acteurs que c'était comme un thriller et qu'il y avait, comme dans les courses des chevaux, 5 chevaux qui partiraient du même endroit et il s'agirait de savoir lequel il arrive en premier, lequel réussira son projet en premier. J'ai coupé, en fait... On dit de mon adaptation, mais ça je ne peux pas me rendre compte, on dit de mon adaptation qu'elle est très cinématographique parce qu'elle a gardé vraiment le cœur des séquences, à peu près de toutes les séquences. Je sais que j'ai beaucoup coupé dans les entrées et dans les sorties, dans les débuts et dans les fins des scènes, de façon à faire un séquençage narratif le plus clair possible. Ce que j'adore dans Lorenzaccio, c'est la narration, c'est l'histoire qui est racontée. Et j'ai cherché à privilégier effectivement cette narration-là en me disant, les spectateurs n'ont pas lu la pièce. Hein? sauf les scolaires qui viennent de la lire, les autres qui l'ont lu au lycée l'ont déjà oublié. Donc s'ils n'ont pas lu la pièce, comment on peut faire pour que cette histoire, pour que la narration soit la plus claire possible, tout en gardant les deux strates, comme dans les cas du C, hein, les deux serpents, les deux rameaux vraiment entrelacés de l'intime et du politique.
Je vous propose d'écouter une autre archive que nous avons retrouvée à l'INA. Il s'agit cette fois de Jean Villard qui parle. Cet archive sera suivi d'un autre extrait de Lorenzaccio, puisqu'on ne manque pas d'extrait de Lorenzaccio à l'INA.
La richesse justement du personnage de Lorenzaccio, qui est en fait un nouveau personnage du 19e siècle français, c'est que jusqu'à la fin, on se demande dans quelle mesure il a une identité propre. Et même à la fin, quand nous savons, nous, qu'il était un libéral et un type qui voulait sauver sa patrie, il ne peut plus l'être. Il est, qu'on excuse le mot un peu dur, pourri.
Mais c'est ça. C'est...
Mais oui, oui c'est voilà. Jean Villard vient de nous parler du personnage même de Lorenzaccio. Et nous devons nous poser la question de savoir qui est véritablement Lorenzaccio.
Je pense que là-dessus, il y a une première remarque à faire. Il y a une première remarque à faire en ce qui concerne le personnage de Lorenzaccio. Évidemment, il marque une richesse psychologique, mais il reste à savoir si cette richesse n'est pas justement le résultat d'une incohérence de son caractère. Il y a, me semble-t-il, deux points dissymétriques dans ce personnage. Tout d'abord, un homme qui recherche l'énigme de sa vie après un meurtre, c'est-à-dire qui attend d'un meurtre un certain résultat. Et d'autre part, un homme qui sait pertinemment que ce meurtre ne l'amènera à aucun résultat parce qu'il n'y croit plus.
Qu'elle se fasse attendre encore un quart d'heure et je m'en vais. Faites un froid de tous les diables.
Patience, Altesse. Patience.
Elle devait sortir de chez sa mère à minuit. Il est minuit. Et elle ne vient pourtant pas.
Si elle ne vient pas, dites que je suis un sot et que la vieille mère est une honnête femme.
Entrailles du pape. Et avec tout cela, je suis volé d'un millier de ducats.
Nous n'avons avancé que moitié. Je réponds de la petite. Deux grands yeux languissants, cela ne trompe pas. Quoi de plus curieux pour le connaisseur que la débauche à la mamelle? Voir dans un enfant de 15 ans la rouée à venir. Et quel trésor que celle-ci! Jamais je n'ai humé dans une atmosphère enfantine plus exquise odeur de courtisanerie.
Sacrebleu, je ne vois pas le signal. Il faut pourtant que j'aille au bal chez Nazi, c'est aujourd'hui qu'il marie sa fille.
Allons au pavillon, monseigneur, puisqu'il ne s'agit que d'emporter une fille qui est à moitié payée. Nous pouvons bien taper au carreau.
Viens par ici, le Hongrois a raison.
Voilà, donc c'était un extrait de 1952. On voit bien, Sylvain Léda, que finalement, chaque époque où l'on voit monter une pièce de Musset voit aussi l'interprétation qu'on se fait de cette pièce, que ce soit Lorenzaccio ou une autre, changer. C'est un auteur malléable, Musset.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un auteur malléable historiquement. Au XIXe siècle, Musset, c'est l'auteur d'un caprice et d'Il ne faut jurer de rien. Au XXe siècle, il devient l'auteur de Lorenzaccio. Donc c'est un auteur mosaïque à facettes. Et effectivement, je pense que Lorenzaccio, on le jouera encore, et je le souhaite, dans 200 ans. Et ce qui est, j'ai une collègue japonaise qui m'écrivait il n'y a pas très longtemps qu'en fait, Lorenzaccio était traduit très tard au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, alors que les jeunes japonais qui venaient de vivre le traumatisme d'Hiroshima n'avaient plus de repères. Et ils ont intitulé la traduction de Lorenzaccio « L'homme des masques ». Et je trouve que ça renvoie bien aussi à Musset, et c'était très bien pensé, je trouve, comme traduction.
Mais est-ce qu'il a connu des périodes de disgrâce depuis sa mort, je veux dire, depuis 1857?
Comme poète, oui. Oui. Comme poète et comme auteur de fiction en prose. Mais comme auteur de théâtre, non, il a toujours été joué. Même dans les années 20, Musset, il y a même une phalange musettiste dans les années 20. Il y a des imitateurs de Musset, des gens comme Jean Sarment, Claude-André Puget. Il y a vraiment des auteurs qu'on ne joue plus aujourd'hui, qui ont adoré Musset. Je ne pense pas qu'il y ait eu de disgrâce théâtrale. En revanche, il y a eu une disgrâce poétique, ça c'est sûr. Après, parce que passer après les critiques de Baudelaire et de Rimbaud, c'est difficile de s'en remettre, hein, sans relever indemne.
Je voudrais quand même qu'on fasse un détour, même s'il ne s'agit pas de théâtre, mais le texte est quand même tellement sublime que c'est difficile de le passer sous silence, qu'on parle quand même de cette confession d'un enfant du siècle que vous avez republiée donc chez Garnier Flammarion. Vous connaissez, j'imagine, Claudia Stavisky.
Bien sûr. Hein, bien
vous
sûr.
Aussi, Cécile Brune. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait tout à fait imaginer adapté au théâtre sous forme de monologue. Hein,
mais
sans
vous
aucun
savez que
problème,
j'ai un...
si
je ne l'ai pas vu malheureusement parce que je n'étais pas à Paris, mais je crois que ça va se reprendre. Et puisque vous en parlez, j'ai un de mes camarades de la Comédie Française, Nicolas Lormeau,
qui en a fait une.
Vous l'avez vu peut-être ?
Non, je ne l'ai pas pu, mais.
Qui en a fait une, son adaptation à lui. Je ne l'ai pas vu et je sais qu'elle va se reprendre. Donc, oui, tout à fait, bien sûr, on pourra en faire un monologue.
Sylvain Leda, dites-nous quelques mots de cette confession d'un enfant du siècle. On dit la confession d'un enfant du siècle et non pas les confessions.
Et justement,
Rousseau oblige,
Rousseau et surtout Saint-Augustin, hein, puisque c'est à la fois Rousseau et Saint-Augustin le modèle des confessions dans la littérature occidentale. Alors c'est une œuvre effectivement autobiographique. On cite souvent les premiers chapitres où effectivement Musset fait le tableau de cette jeunesse en ruine, cette jeunesse soucieuse avec ses images de fantômes, de spectres, de sang, de désarroi. Mais ce que je trouve fascinant, c'est justement la suite du roman. C'est un roman initiatique, un roman de formation aussi, qui est moderne en bien des points.
C'est drôle, vous dites roman, moi je pense récit. Hein. J'ai du mal à coller le mot de roman à la confession d'un enfant du siècle.
Non, effectivement, c'est pas vraiment un roman, c'est une série de récits, une série de tableaux. Et c'est très moderne comme écriture. Et alors on dit souvent, la fin est pas très... Effectivement, la fin, il se passe rien. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est justement cet abandon final. Ils partent chacun de leur côté. Voilà, c'est une fin presque bête, presque banale. Et c'est ça qui fait toute la beauté rétrospective de l'œuvre. Et en bien des points, je trouve que Musset est moderne dans ce récit, roman, cette autofiction même, si vous voulez. Hein, il annonce, je trouve, des auteurs comme Rilke même. Hein, dans sa traversée du désert, sa traversée d'un Paris anxiogène, morbide. Il y a vraiment des expériences aussi charnelles, très fortes dans la description, dans les descriptions. Il y a cette rencontre avec effectivement Brigitte qui est le double de Sand, hein, qui est de l'ordre du sublime, et puis la dégradation par la jalousie, par l'inquiétude, quelque chose qui est rongé de l'intérieur.
Ouais, le ver qui entre dans le fruit, c'est terrible hein, comme processus.
C'est une très belle prose lyrique, et ça, il ne faut pas cesser de le redire.
Jusqu'au 26 juin, vous pouvez assister aux représentations de Lorenzaccio dans la mise en scène de Claudia Stavisky, un spectacle qui se déplace dans la région lyonnaise et qui se donne actuellement sur le site du château de Gerland à Lyon. Je signale aussi qu'il y a une mise en scène que vous allez signer, que vous avez créée déjà, hein, Sylvain Leda. C'est un caprice, vous l'avez créé il y a une quinzaine de jours, vous le reprenez à partir d'octobre au théâtre de l'Essaillon à Paris. Fantasio se joue à la Comédie Française.
Se termine bientôt à la Comédie Française.
Salle Richelieu, Cécile Brune. À lire dans votre présentation, Sylvain Leda, les deux volumes de Musset, La confession d'un enfant du siècle et Les deux maîtresses, deux textes qui sont réédités chez Garnier Flammarion. À lire également de vous chez Gallimard, Alfred de Musset, Les fantaisies d'un enfant du siècle. Vous me signalez aussi, Sylvain Leda, qu'en 2011 va paraître le premier volume chez Champion du théâtre complet que vous avez coordonné avec Florence Nogrette. Et je signale enfin que dans le cadre de ce 200e anniversaire de la naissance de Musset, il va y avoir plusieurs colloques que vous allez co-diriger, dont un premier qui va avoir lieu du 24 au 26 juin à Vendôme, qui est intitulé « Sur les territoires de Musset ». Puis un autre du 14 au 21 août à Cerisy-la-Salle sur la poétique de Musset. Voilà, avec tout ça, les auditeurs seront très au courant de ce qui concerne Alfred de Musset. La semaine prochaine, nous parlerons de Ubu et de Alfred Jarry. Assistante d'émission Anne de Biran, recherche INA Amélie Briand-Lejeune et Émilie Trassante. À la technique parisienne Romain Luquiens et lyonnaise Claire Vuillot-Morel. Réalisation Françoise Camard. Les mercredis du théâtre étaient proposés par Joël Gaillot et à presque 16h sur France Culture. C'est au tour de Toufik Hakem et Jacques Munier de vous accueillir pour À plus d'un titre.